Amis, frères et sœurs, nous voici venus pour chanter Pâques, avec joie et avec obstination, et pour croire à nouveau que la nuit ne peut pas empêcher Dieu de faire lever la lumière. Nous voici pour cueillir l'espérance, pour respirer la joie qui se lève et se maintient au milieu des doutes et des peurs, pour accueillir la paix qui surgit et tient bon face aux conflits et aux difficultés, pour recevoir la vie que rien ne peut écraser, même pas le fardeau de la mort. Nous voici donc, en présence ou à distance, pour célébrer l'œuvre de Dieu, dont l'unique travail, l'unique occupation depuis le commencement, consiste sans relâche à relever la vie dans l'éternité. Je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, nous sommes remplis de reconnaissance pour Jésus le Christ, que nulle puissance n'a pu emmurer, qui nous relève dans la dignité et l'humanité, qui nous donne le courage de marcher sur notre route avec lui et les uns avec les autres. L'amour qu'il a manifesté, le pardon qu'il a offert, la liberté qu'il a éveillée, la vie qu'il a relevée, tout ce qu'il a servi de ta part illumine notre existence et l'humanité entière. Béni sois-tu. Amen. Et nous nous levons pour chanter le premier des cantiques de ce culte de Pâques au numéro 206. Alors, le Sauveur est ressuscité est un cantique avec de très nombreuses strophes, mais nous ne chanterons que la première, la deuxième et la dixième. Il faut tourner la page pour la trouver, la dixième. Prenez place. J'ai imprimé les feuilles de culte pour aujourd'hui, vendredi. Et ce matin, Valentin m'a appelé pour me dire qu'il était malade au fond de son lit et qu'il ne pouvait pas venir. Donc son accueil liturgique dans la communauté protestante sera reporté à un prochain dimanche, dès que possible. Mais aujourd'hui, voilà, nous pensons beaucoup à lui, mais il n'est pas parmi nous. Aussi, il n'y aura pas de... Donc toute la liturgie d'accueil n'aura pas lieu, bien sûr, et nous ne chanterons pas le psaume 138. Mais pour le moment, je vous invite à entendre une proclamation de Pâques que nous allons dire avec Françoise, dire un texte du pasteur Charles Wagner.
Au Vendredi Saint, voici le jugement des hommes. Toi, Jésus de Nazareth, qui est venu absolvant ceux que nous condamnons et condamnant ceux que nous proclamons justes. Préférant au premier des Juifs le dernier des Samaritains, fléchissant le sabbat devant l'homme misérable, appelant les pécheurs et les péagés tes frères, et les prêtres comme les pharisiens des hypocrites. Toi qui as égalé la montagne sacrilège de Garizim à la montagne sainte, toi qui as dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas », nous te maudissons, nous te fermons la bouche, nous éteignons ton regard qui séduisait les foules, nous te clouons au bois infâme, nous te couvrons, toi, tes paroles et ton œuvre, de la nuit du tombeau et d'un opprobre éternel. Il n'en sera plus question à jamais. »
Et Pâques, voici la réponse de Dieu. Toi, Jésus de Nazareth, mon fils, qui as passé en aimant sur une terre de sang et de haine, qui as dit au pécheur que je lui pardonne, à l'orphelin que je suis son père, au pauvre que je suis son protecteur, à l'opprimé que je suis son libérateur, toi qui as essuyé les larmes de ceux qui pleurent, bandé les plaies de ceux qui sont meurtris, montré le ciel aux mourants, toi qui as porté tous les fardeaux et saigné de toutes les blessures, toi que nul n'a compris et pas même tes amis, toi dont le cœur brisé a cessé de battre au milieu des huées et des injures de tes ennemis, ô victime innocente qui succombe en priant pour tes bourreaux, je te bénis, et sur ton front encore déchiré par une couronne d'épines, je pose la couronne de l'immortalité.
Cette œuvre que tu laisses faible, inachevée, j'en fais mon œuvre. La mort ne pourra rien, ni contre elle, ni contre toi. Tu ne seras plus l'homme matériel, attaché à un coin de la terre, l'homme qui n'a qu'une voix pour parler et un cœur pour aimer, qui toujours et malgré tout se débat dans les limites étroites des existences corporelles. Tu seras l'esprit qui souffle où il veut. Tu parleras toutes les langues, tu frapperas à toutes les portes. Tu marcheras sur toutes les routes, invisible, insaisissable, si doux que les siècles des siècles s'attendriront à ta voix, si fort que les murs, les prisons, les supplices, les préjugés, les crimes, toutes les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Crucifié d'un jour, sois le Christ éternel, le prince de la vie.
Et nous nous levons pour chanter au cantique 204. Le Sauveur est ressuscité. Asseyez-vous. Lors des célébrations de la Semaine Sainte, jeudi et vendredi, nous avons lu ici et au Temple de l'Oratoire le récit de la Passion dans l'Évangile selon Matthieu. Et c'est donc le récit suivant, chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu, que nous lirons ce matin, le matin de Pâques. Mais avant, je vous invite à prier. Éternel, tu sais les tombeaux qui nous emmurent, les peurs qui nous retiennent, les conformismes qui nous étouffent. Viens toi-même lancer la parole qui, à travers ces mots de la Bible, s'introduira dans nos cœurs de pierre pour les changer en cœurs de chair. Rappelle-nous que ta gloire réside dans nos renaissances, dans le relèvement de notre désir de vivre. Oui, insuffle en nous ta force de relèvement. Et alors nous serons rayonnants de ta bénédiction et portés par le souffle de vie. Amen. Donc dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, les versets 1 à 15. Après le sabbat, alors que le premier jour de la semaine allait commencer, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent contempler le sépulcre. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'asseoir dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, « Vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il s'est réveillé, comme il l'avait dit. Venez, regardez le lieu où il gisait et allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent vite du tombeau, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Mais Jésus vint au-devant d'elles et leur dit « Bonjour !» Elles s'approchèrent et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur !» Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et racontèrent au grand prêtre tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en leur ordonnant, « Dites, ces disciples sont venus la nuit le dérober pendant que nous étions endormis. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion envers lui et nous ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés. » Ils prirent l'argent et agirent selon les instructions qui leur avaient été données. Et cette histoire s'est propagée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. L'ange du Seigneur, descendu du ciel, vient rouler la pierre et s'asseoir dessus. Voici une belle image. Je suis sûre que nous la voyons, nous voyons quelque chose. Même si nous ne nous représentons pas tous la même chose, ne serait-ce que l'aspect de l'ange du Seigneur. certainement pas un gentil chérubin joufflu et ailé, pas forcément un jeune homme vêtu de blanc comme dans l'évangile de Marc. Peut-être un de ces redoutables kéroubims venus tout droit de la Bible hébraïque, un ange à l'aspect assez surprenant, déconcertant, même effrayant, et d'ailleurs les gardes tombent comme morts. Enfin, vous voyez, vous imaginez. Mais c'est une image, seulement une image. Ce n'est pas la résurrection. Ce n'est pas une image de la résurrection de Jésus-Christ. Matthieu l'écrit clairement. Le tombeau est déjà vide. Quand l'ange roule la pierre, le tombeau est déjà vide. L'ange ne roule pas la pierre pour faire sortir le ressuscité. Ce que Matthieu raconte, ce n'est pas la résurrection du Christ. C'est ce que produit la foi en la résurrection. Croire que le Christ est vivant, pour le dire autrement. Et Matthieu le raconte avec un récit qui relève du langage mythique, tissé de symboles familiers pour la communauté mathéenne. Et l'effet de la résurrection pour Matthieu, eh bien c'est comme un séisme, carrément. Un séisme accompagnant un message, une parole transmise par un messager qu'on appelle un ange. Un message qui est forcément adressé à quelqu'un. Dans le récit, deux femmes, Marie de Magdala, l'autre Marie, deux femmes nommées, reconnues, singulières. Ce n'est pas un message lancé aux quatre vents, en temps de qui pourra, avant de zapper à autre chose. Non, ce sont deux femmes, avec leur propre histoire, mais qui se retrouvent face à un tombeau. Et elles sont venues le contempler. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent face à la mort, à ce qui est irrévocable, à ce qui signifie plus jamais, terminé, point final. Jésus a été crucifié. Et le message, c'est qu'il n'est plus dans le tombeau. Il s'est réveillé. Il a été ressuscité. Nous comprenons alors ce que peut signifier le motif du séisme, du tremblement de terre. Un séisme peut avoir deux conséquences. L'une, c'est la fin d'un monde. Tout s'écroule. Et Matthieu l'a utilisé déjà dans ce sens lors du récit de la mort de Jésus. La terre a tremblé, les rochers ont été fendus. L'autre sens du séisme, qui était déjà un peu contenu dans le séisme de la mort de Jésus, le séisme de Pâques, eh bien, c'est l'émergence du nouveau, d'un monde nouveau, d'une existence nouvelle. Et cela ne va jamais sans craquement, sans bouleversement, sans retournement. Et d'ailleurs, les femmes sont retournées. Elles sont retournées de la contemplation du tombeau, de la sidération de la mort. Elles sont relevées de l'abattement devant l'irrémédiable et engagées dans une nouvelle destinée. Allez ! La sidération devant la mort, nous pouvons l'éprouver dans un temps de deuil. Mais elle n'est pas éprouvée seulement dans ces temps-là. Elle est tellement prégnante. Elle pèse sur tant d'existences, empêchées de vivre par peur de la mort, par peur de la perte, par un « à quoi bon ?» qui n'est pas de la sagesse, mais de la résignation. Et cette sidération, elle peut même évoluer en fascination pour la mort. Comme si l'on pouvait se débarrasser de la peur de la mort en admirant son travail, et même en s'y dévouant, sous couvert d'y échapper, en la servant, sous couvert d'une idéologie de pouvoir, de conquête, d'accumulation ou d'exclusion. Les femmes ont entendu le message de l'ange et elles l'ont cru. Et c'est tout. Et cela suffit. Elles l'ont cru, elles ont cru la parole que l'ange leur disait parce que vous avez remarqué, il n'y avait rien à voir. Le tombeau est vide. Et c'est toujours assez remarquable chez Matthieu, comme il élabore de grandioses mises en scène, à dimension quasi cosmique, voire même parfois cosmique, et que cela mène à constater quelque chose qui est toujours à hauteur d'humain, voire dans le récit qui nous occupe aujourd'hui, à constater qu'il n'y a rien à voir. Alors il ne faut pas se faire avoir. Les femmes croient la parole qui annonce que ce n'est pas la fin, que ce n'est pas terminé, que ce qui était impossible est réalisé. Et cela fait vérité dans leur vie. C'est-à-dire que cela les transforme, cela les renouvelle. Et c'est cela la résurrection. Et c'est ce que nous célébrons à Pâques. L'événement qui survient et renouvelle radicalement l'être humain pour qui cet événement advient. Et nous pouvons nommer cet événement le Christ vivant. Et Jésus de Nazareth, l'homme Christ qui mangeait, vous vous souvenez, qui mangeait, qui buvait avec n'importe qui, manifestait déjà ainsi l'activité créatrice de Dieu, la bonté créatrice du Père qui transforme les existences humaines. C'est ce dont les deux femmes vont être témoins pour les disciples, et les disciples pour d'autres, et ainsi de suite jusqu'à nous aujourd'hui. Deux femmes en deuil, sidérées par la mort, sont transformées en apôtres porteuses d'un message qui est incarné dans leur propre chair, dans leur personne. La mort n'a pas eu le dernier mot sur celui qu'elles accompagnaient, qu'elles servaient, et la mort n'a pas le dernier mot sur leur existence. La parole agissante, ce qui est une autre manière de dire le Christ, la parole agissante les a relevées, recréées, et le présent est ouvert, l'avenir est ouvert. Autrement dit, le récit de Matthieu, ce n'est pas une preuve de la résurrection, ni le récit de Marc, ni celui de Luc, ni celui de Jean. Ce récit est le témoignage de Matthieu, celui qui est présenté dans l'Évangile comme un collecteur d'impôts, déclaré pécheur, condamné comme pécheur, indigne et infréquentable par le jugement des religieux, et qui pourtant a été appelé et s'est levé comme disciple. Car les tombeaux ne sont pas tous fermés par des pierres, mais plus souvent par des regards, par des mots, par des jugements, des préjugés, par des convictions, des idéologies, des systèmes, des logiques, des dogmes, des croyances, ce qui n'est pas la foi. Pâques, c'est la proclamation que ces tombeaux peuvent être ouverts et que les hommes et les femmes qui y sont enfermés ne sont pas condamnés à y rester. Et ça, c'est un séisme. Un très heureux séisme qui figure la libération, le don de la vie vivante qui est l'œuvre de Dieu en Christ. Le réformateur Martin Luther l'avait bien compris en écrivant « Quand tu lis « Le Christ est ressuscité », ajoute aussitôt « Je suis ressuscité et tu es ressuscité avec lui » car il faut que nous soyons rendus participants à sa résurrection. Ne pas apprendre cela, c'est ne pas apprendre du tout. Alors évidemment, cela n'est pas sans provoquer de l'hostilité de la part de ceux qui s'acharnent à la conservation des préjugés, des systèmes, des dogmes qui contraignent et réduisent l'humanité des humains. Et les grands prêtres du récit de Matthieu sont, eux, les témoins, les tenants d'une manière de vivre qui n'est pas la vie, mais qui est mort. Alors ils usent d'outils bien connus pour tenter d'empêcher l'heureuse nouvelle de se propager, pour tenter d'étouffer le surgissement, l'insurrection de la vie malgré la mort, pour préserver leur logique de pouvoir. Le mensonge, la manipulation, la corruption, qui sous-tend toujours une menace, la violence est encore là, qui présidait au procès et à la condamnation à mort de Jésus. Rien de très original. Les grands prêtres n'ont rien inventé pour l'occasion, et rien n'a été inventé depuis. Rien de cela ne nous surprend à l'heure des fake news. Mensonges, manipulation, corruption. Autant d'outils qui altèrent, qui délitent, qui pourrissent la confiance en soi et en autrui, et la confiance en la générosité vivifiante, gratuite et inconditionnelle du Dieu de Jésus-Christ. Pour les grands prêtres, pour leurs semblables d'aujourd'hui, et pour le petit grand prêtre qui s'agite en chacun de nous, la résurrection représente un séisme dangereux qu'il faut éviter, repousser, parce que la résurrection change le rapport que l'on a avec soi et avec les autres. La surrection de la vie vivante dans un être humain, c'est la révélation intérieure de la vérité de l'être devant Dieu, par Dieu, en Dieu, et c'est un être précieux, infiniment digne, une personne accueillie, bénie dans la grâce, relevée dans la liberté, particulièrement la liberté de penser et de conscience. Et il n'y a pas beaucoup de systèmes humains qui supportent cela. D'autant plus que cette vérité de l'existence humaine, notre existence, se révèle, s'articule sur une confiance, pas sur une ambition, ni sur un programme, ni sur une théorie, mais sur une confiance donnée et reçue. Alors la femme ou l'homme ressuscité porte sur autrui un regard attentif à la dignité de l'autre et un regard d'espérance pour l'autre qui sera toujours une personne plus importante que la préservation d'un système. Confiance et espérance, liberté et résurrection ne se conjuguent pas avec l'esprit de domination, avec la loi du plus fort, quel que soit le domaine dans lequel s'exerce cette force. Et le séisme de Pâques a une autre dimension que nous pouvons comprendre dans la rencontre des femmes avec le ressuscité. Car il n'est pas en Galilée, comme l'ange l'a dit, enfin pas encore. Il vient vers les femmes qui se hâtent avec joie vers les disciples. Et Matthieu n'écrit pas que le Christ leur apparaît ou qu'il se manifeste à elles. Il vient vers elles. Il vient à leur rencontre. C'est tellement important, une rencontre. C'est une manière de dire qu'il se passe quelque chose entre lui et elle. C'est cela une rencontre. Quelque chose touche, s'inscrit, déplace et demeure. Allez dire à mes frères. Ce qui passe, c'est un lien, une relation d'infinie proximité et qui ne sera pas effacée. La fraternité signifie qu'il y a quelque chose de commun entre le Christ et ses disciples. Un commun essentiel, fondateur, une solidarité inaltérable. Le Christ n'est pas un Seigneur lointain, inaccessible, qui domine de sa puissance des disciples soumis et qui deviennent parfois avides de posséder peu ou prou de cette puissance. Les disciples sont ses frères et ses sœurs. et cela représente un séisme pour toutes les représentations religieuses organisées sur un mode, disons, impérial, sur la distance infranchissable entre le souverain et ses sujets, nécessitant une structure hiérarchique pour transmettre les ordres. Et le commun partagé, qui est dit dans ce mot de fraternité, de frères et sœurs. Ce commun partagé, c'est la vie du Christ, la vie de la vie, donnée par la générosité du Père qui ne la refuse à personne, car c'est la destinée de tous de ne plus être soumis à ces chaînes de causalité qui entraînent fatalement ce qui se produit, fatalement, vers un destin de mort. Le Christ vivant vient à la rencontre des femmes. Une autre manière de dire cette résurrection, cet advenu qui change tout. Une puissance de vie bonne est à l'œuvre pour elles, en elles, et pour toutes celles et ceux qui croient à l'évangile de la résurrection pour aujourd'hui, qui croient qu'il est possible, car donné, possible de vivre autrement, non dans un esprit de puissance, mais dans l'esprit de l'amour et du don. L'esprit qui nous réunit ici ce matin, avec celles et ceux qui sont au loin, et avec celles et ceux qui sont réunis ailleurs, dans ce même esprit et dans la fraternité. Et c'est un séisme. C'est un séisme pour quelqu'un qui vit dans le monde, de se comprendre soi-même, de se reconnaître soi-même comme frère ou sœur du Christ et de tous. Mais c'est le séisme de Pâques qui fait advenir un autre monde, aujourd'hui encore et à nouveau. Amen. Je vous invite à vous lever pour entrer dans la liturgie de la scène. Éternel Dieu, et pourtant, nous sentons bien que c'est de toi que provient l'indicible transcendance de notre vie. Tu n'es pas seulement à l'extérieur de nous, tu n'es pas seulement en nous. Nous aspirons à une vie en plénitude. Et nous croyons en Jésus-Christ. Pas pour qu'il nous entraîne dans un paradis, mais pour qu'il nous ouvre à la transcendance qui est celle de ta présence dans notre humanité. Il a vécu pleinement sa vie d'homme, mais a été rejeté et mis à mort, la mort de la croix. Et pourtant, c'est de cette mort que surgit un nouveau commencement. Il nous fait naître à une humanité plus profonde et plus authentique. Il nous amène à prendre conscience que c'est en toi que nous vivons et lui en nous. La scène célèbre cette réalité et nous appelle à la vivre pleinement. Nous croyons qu'une nouvelle création est ainsi en route, en laquelle nous te connaissons davantage, ô notre Dieu, une nouvelle création où nous vivons vraiment de ta présence agissante en nos cœurs. C'est pourquoi, en communion avec toutes celles et ceux qui se mettent à l'écoute du Christ et à sa suite, nous rendons grâce et nous chantons au cantique 205 « À toi la gloire ».
Oh. Père, c'est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels. C'est pour rassembler tes enfants dispersés que Jésus, ton Fils, a pris du pain, l'a rompu en bénissant ton nom et l'a partagé avec ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». Après le repas, il a pris la coupe et de nouveau, en bénissant ton nom, il l'a donnée à tous ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en souvenir de moi. »
Nous nous rassemblons et nous nous recueillons dans la prière. Père, donne-nous ton esprit d'amour. À nous qui venons à cette table comme tes invités et tes enfants, pour y communier à la vie, à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ. Avec toutes celles et ceux qui l'aiment et croient en lui, donne-nous la force, le courage, la volonté d'être des artisans de ta paix, de ton royaume, des ambassadeurs de ta réconciliation, des témoins de la vie éternelle. Rassemble-nous en toi, avec toutes celles et ceux pour qui Jésus le Christ a donné sa vie et que tu veux attirer à lui. Nous portons dans notre prière celles et ceux qui découvrent dans leur existence un goût de résurrection, et nous nous réjouissons avec eux, avec elles. Nous faisons place dans notre prière à celles et ceux dont le sang coule dans les champs de guerre, dont la vie est sacrifiée au temps particulier, ou qui sont emportés par l'orgueil, la démesure, la haine et la violence. Nous faisons place dans notre prière aux familles endeuillées, dispersées, chassées de chez elles, errant sur les routes et les mers de la terre. Par notre prière, nous tenons à toi et nous tenons à eux, à elles toutes, frères et sœurs. Souffrants, errants, et nous nous tenons avec eux dans l'amour et dans l'espérance. Et c'est ainsi, tenus tous ensemble, en communion avec le Christ, et les uns avec les autres, que nous te disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Amis, frères et sœurs, nous avons dressé la table, nous avons rassemblé le pain et le vin. C'est le Christ qui vous invite. Venez maintenant, car tout est prêt. Sont invités toutes celles et ceux qui désirent partager le pain et le vin. Que chacun se sente accueilli tel qu'il est, en toute simplicité et dans le respect de ses convictions.
Nous allons former un grand cercle. Je crois qu'il sera grand aujourd'hui pour la scène. Et même si vous ne souhaitez pas prendre le pain et le vin, venez quand même dans ce cercle. Vous y avez place. Parce que c'est un cercle d'humanité, un cercle d'égalité, de dignité. Alors venez. Peut-être qu'il est possible de passer derrière les poteaux, hein, de faire vraiment le long des murs. Pour que chacun ait place. Il y en a une pour chacun. Voilà, une place pour chacun. Et parce qu'il n'y a pas d'anonyme à cette table, eh bien, je vous invite à vous enquérir, si vous ne le connaissez pas, du nom de votre voisin de droite et de gauche. Au moins, vous ne soyez pas sans nom. Le pain et le vin vont être distribués par quelques personnes et je vous invite à attendre que tous aient reçu sa part de pain et de vin et puis nous mangerons et nous boirons ensemble quand tout le monde aura été servi.
Jésus-Christ, tu t'es assis avec tes amis pour rompre le pain du présent. Tu as pris l'amitié entre tes mains et tu as dit que c'est là le plus humain. Le souci qu'on a les uns des autres, que personne ne soit laissé dehors et qu'autour de la table, chacun ait sa place et sa parole. Tu as dit que la vie, c'est comme la manne. Il faut s'agenouiller pour la ramasser chaque matin, puis la pétrir longuement pour en faire des galettes de bonté que l'on partagera avec ceux qui sont sur le bord du chemin. Avec toi, nous le ferons. Amen.
Je vous invite à regagner vos places dans la joie du Christ ressuscité. Voici le moment des annonces. Dimanche de Pâques, comme tous les dimanches, c'est le jour de la collecte de produits au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Que cette collecte qui a lieu tous les dimanches nous sert à aider cette œuvre à assurer son service qui ne va pas, hélas, en diminuant. Donc tout ce que nous apportons ici en produits non périssables, produits d'entretien, produits d'hygiène, avec la liste des produits particulièrement demandés qui est affichée dans le temple, eh bien tout cela sert à soulager la peine, la souffrance et l'angoisse de nombreuses personnes dans le 11e arrondissement. Dans la semaine qui vient, alors mardi 11, c'est le jour de la pause biblique, donc nous nous retrouverons à partir de 11h30 pour le repas et 12h30 pour ceux qui ne déjeunent pas dans la salle vitrée pour poursuivre notre parcours dans les rencontres dans l'évangile de Jean. Et nous en arrivons donc à la rencontre de Jésus et de Pilate. Donc c'est le texte que nous lirons mardi. Mardi également à 17h30, il y aura une réunion du bureau du conseil presbytéral. À mercredi 12 à 18h30, ce sera une réunion du comité d'entraide de l'entraide du foyer de l'âme. Jeudi 13, comme tous les jeudis à 12h30, dans le temple, la pause spirituelle, donc qui permet aux participants de prendre une heure de silence, de pause, de musique, de lecture de la Bible, de partage autour du texte et de prière, de 12h30 à 13h30 dans le temple. Vendredi 14, il y a deux choses, donc ça va être difficile en même temps, il faudra choisir. Il y a à 19h30 la réunion du groupe Théo et Psycho. Et nous poursuivons la lecture du livre d'Élian Cuvillier de Jean-Daniel Causse, Traversée du christianisme. Mais il y aura également vendredi soir dans le temple un concert, les concerts royaux auxquels participe notre amie Elisabeth Joyer au clavecin. L'affiche est dans l'entrée du temple. Samedi 15, beaucoup de choses encore. Samedi 15 à 10h30, réunion du groupe Évangile et Liberté. Nous lirons et nous partagerons autour du dossier du numéro du mois de mars qui consistait en un article sur les faux plis sexistes dans la lecture de la Bible à partir de l'intervention que j'avais faite lors des cultes conférences. À 17h, dans le temple, il y aura un événement organisé par la commission Église verte du foyer de l'âme. Ce sera un dialogue entre Frédéric Rognon, qui est professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie de Strasbourg, qui est le spécialiste français, je pense, de Jacques Ellul, mais aussi dans bien d'autres domaines. Il a travaillé... Et puis Benoît Granger, qui est un des spécialistes français de l'économie sociale et solidaire. Et leur dialogue a été placé sous le titre « Écologie et capitalisme, quelle compatibilité ?». Donc ce sera un dialogue, mais il y aura aussi un dialogue avec les personnes présentes qui pourront bien sûr poser des questions. Et le tout sera ponctué de petites pauses musicales grâce au quatuor Emion, qui viendra jouer une œuvre de Haydn, Joseph Haydn. Merci, Pierre-Charles. J'ai eu un trou. Voilà, vous avez les affiches également dans l'entrée et dans le temple pour cet événement Église verte, samedi 15, de 17 à 19 heures. Les horaires seront très précis, le temple étant occupé avant et après. Parce qu'après, mais un peu plus tard dans la soirée, il y aura au temple, au foyer de l'âme, un concert de l'ensemble Éolide qui donnera la passion selon saint Jean. Donc aussi un très beau moment musical. Dimanche 16, il y aura bien sûr le culte à 10h30, un culte qui sera assuré par Valérie Laubry, puisque je serai pour ma part assurer le culte à la paroisse de Levallois, dont je suis référente en cette année de vacances pastorales du poste de Levallois. Et après le culte, ici, il y aura au deuxième étage le repas des JMJ, jeunes et moins jeunes, un repas où chacun apporte quelque chose à partager, ou pas. Et ce repas des JMJ nous permettra d'accueillir et d'entendre une représentante du DEFAP, c'est-à-dire le service protestant des missions, dont j'ai oublié le nom, Brigitte. Éline Ouvry, merci de pallier mes trous de mémoire. Donc, il viendra nous parler du DEFAP. Qu'est-ce que c'est que la mission dans le protestantisme aujourd'hui, pas seulement dans d'autres pays, mais également en France. Et le DEFAP est aussi présent et acteur en France. Donc voilà, les questions sur ce thème qui occupe aussi une grande part de la réflexion de l'Église protestante unie en ce moment, qui est engagée une réflexion de plusieurs années sur la mission de l'Église, les ministères, etc. Donc ce sera dimanche prochain, après le culte, à partir de 12h30, dans la salle du deuxième étage. Et il y aura également dimanche prochain école biblique et précaté pour les jeunes de la paroisse. Et puis, Fabrice a une annonce à faire, une date à retenir, à noter dans vos agendas.
Dimanche 13 mai, donc ça n'est
pas
samedi, pardon, merci. Samedi 13 mai, donc ça n'est pas tout de suite, mais je voulais vous l'annoncer un petit peu à l'avance. J'aimerais partager avec vous la passion que j'ai pour un des plus beaux lieux du monde. Il s'agit du château de Chantilly. Alors peut-être que ce château n'évoque à beaucoup que la crème Chantilly. Ce château, c'est une petite merveille posée sur un miroir d'eau. C'est aussi la collection de peintures anciennes la plus riche de France après le Louvre, avec des tableaux de Raphaël, Botticelli, Philippe de Champaigne, Véronèse, j'en passe et des meilleurs. Une collection constituée avec passion et expertise par le duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe. Voilà, tout simplement, donc par une belle matinée que j'espère ensoleillée, une escapade à la campagne. Ce sera en plus le week-end des plantes, donc ce sera une escapade bucolique et spirituelle, puisqu'il y aura notamment des tableaux à sujet religieux. Donc on s'élèvera l'âme, hein, et on partagera le plaisir d'être dans un très beau lieu. Voilà.
Et j'ajoute que cette visite, donc, qui est dans laquelle nous écouterons Fabrice, donc ce sera le samedi matin. Il faudra arriver à l'heure à Chantilly. Après, chacun pourra rester, puisque c'est le week-end des plantes à Chantilly, aussi longtemps qu'il le souhaite. Mais en tout cas, on se retrouvera le matin pour la visite du musée. Et après, si ceux qui veulent, on peut déjeuner là-bas, s'il fait beau, etc. Tous les renseignements seront communiqués à ceux qui s'inscriront, parce qu'il va falloir s'inscrire. Et pour s'inscrire, il faut m'envoyer un message, donc à pasteur@foyerdelame.fr. Et le plus rapidement possible, puisque nous avons une organisation à mettre en place avec le musée pour l'accueil d'un groupe. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette visite, donc le samedi 13 mai, ce sera le matin, on peut y aller en train ou en voiture si vous voulez y aller en voiture, mais en train c'est encore mieux, une petite marche à pied qui fait du bien, et la visite du musée de Chantilly. Voilà, donc merci de vous inscrire à l'avance, et puis nous profiterons de la passion de Fabrice pour ce musée. Et il y a un ciné-club à l'horizon.
Bonjour à toutes et à tous. Le premier jeudi du mois, nous avons ciné-club, mais cette fois, c'était le jeudi saint. On ne l'a pas déplacé le jeudi saint. Donc, le cinéma, ce sera jeudi prochain, 13, Un drôle de paroissien de Jean-Pierre Mocky, avec Bourville, Francis Blanche et Jean Poiret. Le mois dernier, c'était un film de Bergman, on change un peu. Et c'est un film assez connu. Par coïncidence, il est passé sur Arte il y a peu. Si vous l'avez regardé sur Arte, il vous a beaucoup plu, donc vous reviendrez jeudi le revoir. Bourville aimait bien tourner avec Jean-Pierre Mocky. Ils ont fait 4 films ensemble. Bourville expliquait parce qu'au moins Mocky lui propose des personnages différents de ce qu'on lui propose d'habitude. Et là, Bourville joue un aristocrate ruiné, catholique, pratiquant. 19h, le casse-croûte, deuxième étage, 19h45, la projection. Mais, il y a 95% de chances qu'on ne puisse pas le faire, parce que jeudi, c'est la grande mobilisation syndicale. Et comme ils ont défilé rive gauche la dernière fois, ça sera sans doute par ici cette fois-ci. Et bon, traverser la place de la Bastille pour venir voir ce film ou pour en ressortir au milieu des gaz lacrymogènes ou des nasses. Si, non, il y a un risque. Alors, selon... mais l'itinéraire de la manifestation n'est pas encore fixé. J'enverrai un mailing aux habitués selon les circonstances et peut-être que sur le site, on mettra un mot s'il faut annuler. Voilà. C'est justement le soir, le problème. C'est la fin de la manif, le problème.
D'autres annonces ? Alors, c'est le moment de l'offrande. Cette offrande libre et joyeuse pour que ce soit une offrande et qui sert au foyer de l'âme à remplir sa mission. Entre autres, d'accueillir tous ceux qui viennent. Pendant l'offrande, je vous invite à vous lever. Nous chanterons au cantique 209. Chantez à Dieu d'un même cœur, un autre cantique du temps de Pâques. Nous le chanterons en entier. Prenez place. Quelques mots pour partir des mots dits par Françoise comme exhortation.
Il est beau le matin de Pâques où Dieu s'est levé pour rouler les pierres qui retiennent celles et ceux qui ont faim de vivre, pour ouvrir les portes qui enferment à celles et ceux qui ont soif de justice, pour rendre l'espérance à tous les êtres humains et tracer devant eux le chemin de la vie. Il est beau le matin de Pâques où Dieu relève l'humain des ténèbres qui écrasent les élans d'espoir, de la peur de l'autre qui attise la haine, du regard soupçonneux qui brise la confiance et la dignité, des idées arrêtées qui divise les êtres humains. Il est beau le matin de Pâques où moi aussi je me lève pour me dresser contre ce qui opprime et proclamer la liberté, pour m'élever contre le désespoir et partager l'espérance, pour annoncer la joie d'être ressuscité et communiquer l'amour qui relève et donne la vie. Pâques est ce matin où Dieu relève l'humain et lui permet de regarder l'avenir en face. Amen. Alléluia.
Et nous chanterons au cantique 212, « Mon Rédempteur est vivant ». Nous le chantons en entier, en nous levant, et après rester debout. Recevez maintenant la bénédiction de la part de l'Éternel. Après, je vous invite à vous rasseoir pour écouter le dernier morceau d'orgue. Nous pourrons sortir ensuite. Je vous rappelle que Nicole ne souhaite pas d'applaudissements. Amis, frères et sœurs, c'est Pâques. Et l'Éternel vous ouvre des passages dans vos deuils, vos peurs et vos heures de souffrance. L'Éternel vous bénit et que chante en vous l'espérance plus lumineuse que les abîmes. L'Éternel vous recouvre du bien qu'il réalise pour vous en Jésus son Fils, traversant la mort et vous entraînant au jardin de la vie. C'est Pâques, et l'Éternel vous bénit dans le printemps des commencements. Amen.